Bonjour et merci d'être au rendez-vous du Grand Face-à-Face tous les samedis. Au sommaire de l'émission, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis en débat, comment gouverner, décider, prévoir quand on est au pouvoir, quand pendant une crise comme celle que nous traversons. Est-ce que le politique doit laisser le dernier mot aux experts, aux scientifiques? Comment peut-on arbitrer entre l'urgence, qui est d'abord sanitaire, et la catastrophe économique et sociale qui en découle? Et face à l'inédit, à l'imprévu, les politiques doivent-ils avouer qu'ils ne savent pas tout ou doivent-ils d'abord nous rassurer? Rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec l'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Elle connaît ces sujets mieux que personne. Elle a été critiquée pour avoir suivi le principe de précaution. Avec des stocks de masques et des millions de vaccins commandés, on se souvient de la crise du H1N1. Beaucoup l'érigent aujourd'hui en modèle à suivre en temps de crise. Roselyne Bachelot sera donc au micro de France Inter dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, le duel.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel, Natacha Polony, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver comme tous les samedis, c'est la tradition. Et avant de revenir sur quelques-uns des temps forts de la semaine, Gilles, c'est devenu maintenant un rendez-vous tous les samedis. La Fondation Jean Jaurès et l'IFOP suivent l'évolution du moral des Français en temps de confinement, l'évolution donc de notre moral. Et qu'est-ce que nous avons en tête, Gilles, depuis maintenant cette quatrième semaine qui est terminée, quatrième semaine de confinement?
Oui, ce que nous suivons, c'est un panel de 35 Français de tous âges, de toutes professions, qui habitent aux quatre coins du territoire et qui remplissent chaque jour un cahier de confinement. Si j'avais, je résumais, la première semaine, c'était l'effervescence, la deuxième semaine, c'était la peur, la troisième semaine, on l'avait vu la semaine dernière, c'était la lassitude. Si on doit caractériser cette quatrième semaine, c'est une mutation de la peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une peur initiale du confinement, la peur d'être isolé, comment je vais m'organiser, et à cela s'est ajouté la peur du déconfinement.
La peur du déconfinement
qui apparaît. Eh oui, le déconfinement qui apparaît pour beaucoup de Français à la fois filandreux. Ils espéraient au début que ça serait un moment libérateur, une grande fête, une folie.
Oui.
Et ils ont compris que ce serait un processus chaotique, dont maintenant ils savent a priori quand ils devraient commencer, mais dont ils ont bien compris qu'ils ne savent pas quand ils devraient se terminer. Et surtout, ils redoutent que ce soit un moment dangereux. De manière ironique, ils disent « Le problème aujourd'hui, c'est de contracter le virus. Le problème demain, ça sera de ne pas l'avoir contracté. » Et beaucoup, évidemment, attendent avec impatience le déconfinement, mais beaucoup aussi, et parfois les mêmes, le redoutent. Parce qu'ils redoutent d'être exposés au virus et il ne sera pas si évident de les faire ressortir de chez eux. Et ce faisant, c'est là où on voit la deuxième crainte, la deuxième mutation, c'est qu'à la peur sanitaire s'ajoute la peur économique. La peur sanitaire, elle a évidemment pas disparu, mais elle a évolué. Chez certains, elle a diminué. Ceux qui sont confinés, ils ont l'impression d'être dans une bulle. Et surtout, on l'oublie trop souvent, chez ceux qui habitent dans des régions peu touchées par l'épidémie. Et en revanche, elle a augmenté chez ceux qui continuent de se rendre sur le lieu de travail et davantage encore chez ceux qui sont de plus en plus nombreux, qui ont un ami, un proche, une connaissance qui est touchée sévèrement par le virus. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que la peur économique, je termine par là, a fortement émergé. Et ça c'est nouveau. Soit c'est une crainte personnelle, on voit un étudiant qui dit quand je vais entrer sur le marché du travail, je crains d'être une nouvelle génération sacrifiée. Ce sont tous ces salariés en chômage partiel qui redoutent que le temporaire devienne durable et qui basculent dans le chômage. Et puis pour tous, c'est le sentiment que les chiffres avancés par l'État sont absolument vertigineux. Et donc, dernière phrase, la dernière mutation, c'est que on espérait que le après, ça serait différent du avant. Et aujourd'hui, de plus en plus, les Français redoutent que le après soit pire que le avant, même si il y a une part de rêve qui demeure. Je termine par cette citation d'un des Français qui, dans ses cahiers de confinement, tout n'est pas perdu, rien n'est écrit, nous pouvons changer.
Natacha, est-ce que vous expliquez ces apparentes contradictions, que le déconfinement ne soit pas seulement vécu comme un espoir, comme une perspective réjouissante?
Ça semble évident à différents points de vue. Premier point, et on l'avait déjà évoqué ici, la question du discours totalement contradictoire sur cette fameuse immunité de groupe. Là, ça commence à être un tout petit peu abandonné, et heureusement, mais quand même pendant 2 semaines, on nous a servi l'idée que le déconfinement ne pouvait se faire en toute sécurité et correctement que si on atteignait une certaine immunité de groupe, ce qui est une contradiction totale avec le fait qu'on a confiné justement pour que les gens n'attrapent pas la maladie. Oui. Et les discours qui ont commencé à surgir, le projet d'Anne Hidalgo par exemple de faire un carnet d'immunité, une sorte de certificat de passe pour ceux qui auraient eu le virus, tout ça a ajouté une confusion totale, d'autant plus qu'on s'aperçoit que les choses scientifiquement, médicalement sont plus compliquées que ça.
Et justement ça, on en parlera avec Roselyne Bachelot.
Voilà, sur le discours purement médical il y a eu un problème. Ensuite, le déconfinement, les gens l'avaient sans doute pas suffisamment anticipé, mais en tout cas ils l'ont bien compris en écoutant Macron, qui a bien précisé que le 11 mai était un point de départ. Et en effet, l'idée est là, c'est-à-dire que tout ne fait que commencer. D'abord, du point de vue, en effet, de la sécurité, c'est-à-dire que on ne peut pas rassurer les gens sur le déconfinement si on ne leur dit pas qu'on a les outils pour qu'ils soient protégés, d'où ce problème toujours le même des tests. Et
oui,
Emmanuel
sûr.
Macron, dans son discours, n'a pas été clair sur cette question des tests.
Il on
a
va l'écouter dans un instant.
Qu'on n'allait pas tester tout le monde parce que ça ne servait à rien. On va y revenir. Mais ça ajoute là aussi de la peur et de la confusion. La question des écoles, puisque le message qui est envoyé, c'est de dire, bah, en gros, le restaurant, c'est dangereux, donc on va continuer à le fermer. Mais l'école, c'est pas dangereux. Comment voulez-vous que les gens se projettent et comprennent dans quelque chose qui leur semble là aussi contradictoire ? Donc là aussi, il va falloir petit à petit clarifier, petit à petit rassurer. Et puis, la peur économique, en effet, là aussi, c'est une évidence.
Oui, bien sûr, elle est inévitable.
Au moins 25% des restaurants qui risquent de rester sur le carreau, c'est absolument majeur. Et c'est pour ça, là aussi, ça va être le sujet de notre discussion, notamment avec Roselyne Bachelot. Mais opposer... enjeu sanitaire et enjeu économique et social me semble totalement absurde parce que en fait il y a des enjeux sanitaires dans l'enjeu économique et social. Les crises économiques créent de la souffrance, de la maladie, de la pauvreté qui elle-même engendre plus de maladies. Donc oui, tout ça doit être pensé totalement en même temps, bien sûr.
Alors justement, Gilles Finkelstein, vous suivez le moral des Français, mais pas celui du président de la République. On ne sait pas donc ce qu'il y avait dans la tête d'Emmanuel Macron lundi soir quand il prononçait ces mots.
Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies et nous réinventer. Moi le premier. Il y a dans cette crise une chance. Nous ressouder. Éprouver notre humanité. Bâtir un autre projet dans la concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble, profonde.
C'était donc lundi soir, on aurait pu prendre d'autres extraits, mais nous avons choisi celui-ci qui parle de la France d'après, qui esquisse quand même un petit espoir. Près de 37 millions de Français l'ont regardé, écouté. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Est-ce que vous avez retenu, comme beaucoup, le 11 mai ? Le 11 mai, d'abord et avant toute chose, Gilles.
Alors, peut-être deux choses. D'abord, ce que ça dit de lui, d'Emmanuel Macron, dont je ne suis effectivement pas dans sa tête, mais ça montre en tout cas, je crois, qu'il a compris un impératif qui est celui d'un changement profond. C'est la leçon du mois écoulé où on voit que la confiance envers le gouvernement dans la gestion de la crise s'est affaissée. C'est aussi la leçon de l'histoire. Elle était bien rappelée par Alain Duhamel dans sa tribune de Libération de cette semaine. Le risque, après toute grande épreuve, est de remercier celui qui a dirigé. Et quand on dit remercier, c'est pas de lui dire merci, mais c'est de lui dire au revoir.
Au revoir.
Bon, et donc, la nécessité d'un changement profond, on le voit de manière implicite, on l'a vu de manière implicite dans un changement de posture d'Emmanuel Macron dans son allocution. On l'a vu de manière explicite dans la reconnaissance, ou en tout cas dans la demi-reconnaissance d'un certain nombre d'erreurs, et dans l'extrait que vous avez passé d'une volonté de changement en profondeur. Après, on peut débattre de la sincérité, de la capacité, de la légitimité d'Emmanuel Macron pour le faire, mais c'est la première chose qui m'a frappé. Il a compris cet impératif de changement profond. Et puis la deuxième chose qui m'a frappé, c'est pas sur lui, mais c'est sur nous. C'est-à-dire sur la réception de ce discours. On a tous un biais idéologique, politique, chacun a les siens, on peut essayer de les mettre à distance, mais il y a eu surtout un biais cognitif.
C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire quoi? Il y a eu, j'ai recompté en relisant le discours après, près de 25 annonces. Qu'est-ce qui a été retenu? Une chose, le 11 mai, et sous sa forme positive, c'est-à-dire non pas, on en a encore pour 4 semaines de confinement, mais le 11 mai, c'est sorti. Non pas, ça va être progressif, mais le 11 mai, c'est la sortie. Et ce faisant, ça montre que nous entendons ce que nous attendons. Il y a un biais d'attention. Et nous entendons ce que nous espérons. Il y a un biais de croyance. Et donc, ça en dit aussi beaucoup sur nous.
Même si certains ont entendu ce discours comme s'ils recevaient une douche froide, Natacha, qu'est-ce que vous, vous en avez retenu?
Il y a, comme souvent, la forme et le fond. Sur la forme, tout le monde a remarqué qu'Emmanuel Macron avait abandonné ce ton martial des débuts, mettait en avant l'humilité, parfois même la reconnaissance de certaines failles, de certains ratés, comme il l'a dit. Tout de même, il faut là aussi analyser ça comme un discours savamment travaillé. Et c'est d'ailleurs assez drôle de voir que Emmanuel Macron reconnaît des failles et des ratés en disant « j'ai vu des failles et des ratés, on ne sait pas qui en est responsable ». Et à côté de ça, « nous avons réussi, nous avons été créatifs ». C'est-à-dire, on s'associe à la réussite, et puis bon, les failles, on ne sait pas d'où ça vient, et c'est d'ailleurs. Dans le choix de la structure grammaticale, il y a quelque chose de très intéressant et d'assez significatif. De même, le discours, l'extrait que nous avons passé au début est intéressant, puisqu'il dit qu'il faut abandonner les idéologies. De fait, il abandonne surtout la sienne. C'est-à-dire que ce discours, surtout la fin, est une reconnaissance que tout ce qui était le cœur de sa pensée, notamment pendant la campagne présidentielle, a été démenti. Les flux, le mouvement, l'intégration dans la mondialisation, dans l'accélération du monde, la start-up nation, tout ça est balayé. Donc ce ne sont pas les idéologies qu'il faut revoir, c'est l'idéologie qui prévalait au modèle et au monde d'avant. Et c'est là où, évidemment, Gilles disait que les gens avaient peur de l'après, que les Français se méfiaient de ce qui allait en sortir.
Oui.
Et en effet, tout dépend de la façon dont l'après va être pensé. Or, nous voyons que donc, sur le plan purement immédiat du traitement de la crise, il y a reconnaissance des erreurs, mais il y a aussi du flou. Sur la question des masques, sur la question des tests, ça continue à être flou. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Gilles, c'est que je pense que l'inquiétude, elle vient aussi du fait que les gens ont très bien entendu qu'il y avait des choses qui étaient floues dans ce discours sur les points précis qui étaient essentiels, à savoir la sécurité du déconfinement. Et qu'en revanche, sur le projet à venir, là, Emmanuel Macron, c'est la fin de son discours, retrouve son appétit pour les envolées lyriques, alors qu'en fait, il y a des choses extrêmement concrètes à discuter. Alors, il a donné cette semaine une interview au Financial Times, qui est aussi extrêmement intéressante, et dans laquelle il plaide pour son modèle européen, où il alerte sur la nécessité, par exemple, enfin, il plaide toujours pour les eurobonds, la nécessité de mutualiser les dettes. Et là, on entre dans des problématiques qui sont plus concrètes, que Bruno Le Maire a décliné aussi face à la Commission des Finances sur le risque. Bruno Le Maire a alerté, c'est très intéressant, sur le risque majeur de divergence des économies dans la zone euro qui pourrait amener à l'explosion de cette zone euro. Sachant qu'en fait, les divergences, elles se sont creusées depuis le début de la création de l'euro. Et tout ça, aujourd'hui, est essentiel. Nous allons nous en apercevoir de plus en plus parce que c'est la question de savoir comment nous allons sortir de cette crise, si l'Union européenne va réussir à se réinventer ou pas, si elle va sortir des erreurs qui ont été les siennes et si, là aussi, le président de la République va pouvoir porter un projet différent. Je comprends que certains citoyens aient un doute dans la mesure où l'idée est quand même que il est assez surprenant de prendre ceux qui se sont trompés pour essayer de corriger les erreurs.
Et justement, on va parler maintenant de ces nombreux, très nombreux citoyens qui ont dû éprouver plus que des doutes. Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Je comprends qu'on protège des personnes qui sont vraiment fragiles ou qui ont une comorbidité. Mais mettre dans le même sac toutes les personnes qui ont plus de 70 ans, Ça n'est pas juste, c'est complètement arbitraire. Il y a, à 70 ans, et j'en fais partie, des tas de seniors qui sont actifs encore. Il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des hommes politiques, il y a des chauffeurs de taxi, il y a des tas de gens qui travaillent au-delà de 70 ans et qui sont robustes.
On vient d'entendre la colère de la psychologue Marie de Hennezel. Comme elle, toute la semaine, beaucoup étaient révoltés à l'idée d'être les grands exclus du confinement en raison de leur âge, même si on ne sait pas si on est vieux à 65, à 70 ou à 75 ans, puisque le président de la République ne l'a pas précisé lundi dernier. La mesure a été souvent décrite, dénoncée comme discriminatoire, et hier soir, communiqué de l'Élysée, le chef de l'État en appelait à la responsabilité individuel. À partir de quel âge est-ce qu'on est vieux, Gilles? 65, 70, 75 ans? Personne n'est capable de le dire.
Non, personne n'est capable de le dire. Natacha Polony disait tout à l'heure qu'il y avait eu de l'inquiétude parce qu'il y avait eu du flou, notamment sur la sécurité du déconfinement. Il y a eu du flou aussi sur cette question du déconfinement des seniors. Et je crois vraiment que le confinement obligatoire maintenu des plus de 70 ans ou des plus de 65 ans aurait été à la fois fragile d'un point de vue constitutionnel, très coûteux d'un point de vue psychologique, discutable d'un point de vue sanitaire et surtout aurait été calamiteux d'un point de vue symbolique dans la représentation collective que l'on se fait du vieillissement.
Donc il y a eu des hésitations.
Il y a eu, alors ça n'a pas vraiment été annoncé. Il y a eu des hésitations, il y a eu des ambiguïtés. Je crois qu'on a évité, avec le communiqué du président de la République d'hier soir, une mauvaise décision. Mais justement, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et je crois que c'est un mélange de statistiques, de droit et de politique. La statistique, on sait avec ce virus qu'il vaut mieux être une femme et qu'il vaut mieux avoir un groupe sanguin O. On sait surtout qu'il vaut mieux ne pas avoir une pathologie associée, comme le diabète, l'hypertension, l'obésité. 90% des décès avaient aussi une autre pathologie. Et qu'il vaut mieux ne pas être âgé, puisque 80-85% des décès avaient plus de 70 ans. Et donc, la statistique montre qu'il y a des personnes qui sont à risque et même
18 millions de personnes à risque d'être contaminées, disait Jean-François Delfraissy, le président
du
Conseil scientifique.
Le 18 millions... Ça vient de quoi? Ça vient de ceux qui ont à la fois une affection de longue durée, 11 millions de personnes, et ceux qui ont plus de 70 ans, 10 millions de personnes, sachant qu'on peut à la fois avoir une affection de longue durée et avoir plus de 70 ans, donc ça fait 18 millions. Là, on est sur un critère qui, disons, d'un point de vue juridique, peut être considéré comme un critère objectif. En revanche, l'obésité, dont on sait que c'est aussi un facteur de risque, n'est pas un critère objectif. Et donc, si on devait sélectionner, déterminer la catégorie de la population qui doit obligatoirement se confiner, il y avait un problème. Et arrive enfin la politique, c'est est-ce que, pour protéger les personnes à risque, est-ce qu'on a recours à la confiance, c'est-à-dire au conseil éventuellement même rigoureux, ou à la contrainte, c'est-à-dire à un confinement obligatoire? Et là, il y a eu une ambiguïté, puisque quand on regarde ce que disait avant l'intervention du président de la République le conseil scientifique, un confinement strict doit être impératif. Quand on lit ce qu'a dit Emmanuel Macron, il y a eu cette interrogation. Ma conviction, c'est que l'âge est un critère. Il faut regarder la réalité en face, mais c'est pas le seul critère. Il doit être complété par ce que j'ai évoqué. Il doit être différencié. D'accord. Il y a un certain nombre de seniors qui sont, les seniors ne sont pas tous dans le même état, et que surtout, il faut que ce soit la confiance et pas la contrainte.
Natacha.
Oui, je pense que la question démocratique est majeure, c'est-à-dire que la démocratie, c'est un arbitrage entre l'intérêt individuel de chacun, la liberté aussi individuelle, et puis le bien commun. Si l'on considère le bien commun, on peut, et uniquement le bien commun, on en arrive, sans avoir aucune attention aux individus, à dire, mais enfin, pour le bien, il faut éviter un nouvel engorgement des urgences, et donc, il faut faire en sorte que les personnes à risque ne soient pas potentiellement contaminées. Et on en arrive là. Alors qu'en fait, la politique, c'est justement l'arbitrage, c'est le choix des prises de risques acceptables.
On va en parler avec Roselyne Bachelot, justement.
Voilà, nous allons en parler, mais c'est le fait aussi que chaque citoyen est aussi maître de son destin du moment qu'il a conscience de ce bien commun. Et donc cet arbitrage doit être fait, or il est rendu plus difficile par une chose essentielle. Cette idée de confinement généralisée pour les plus de 70 ans, pour les pathologies, c'est 18 millions, ça émane du comité scientifique, c'est-à-dire c'est un discours d'experts, c'est un discours de médecins, et les médecins ont montré qu'ils étaient essentiels dans cette crise qui est évidemment sanitaire. En revanche, oui, nous voyons que les choix dans une société, dans une communauté politique, doivent être faits par les politiques en tenant compte de ce que disent les experts, mais en tenant compte aussi des autres experts déjà, c'est-à-dire des autres domaines qui sont aussi essentiels, et puis en tenant compte de la volonté des citoyens.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, la révolte.
La révolte des personnes de 70 ans, elle se comprend parfaitement.
Bien sûr.
Parce que, en effet, il y avait quelque chose de discriminatoire. Mais surtout, tout le problème est de savoir rapidement si le politique est légitime pour prendre les décisions. Et quand le politique est délégitimé, quand il y a une perte de confiance, eh bien, le politique a tendance à se cacher derrière les experts, à abandonner son pouvoir aux experts. Ça s'est fait pendant des décennies avec les experts économiques et d'une certaine idéologie économique. Et ça se fait là, derrière des experts scientifiques, dont on voit que, pour les meilleures raisons du monde, ils prennent en compte le point de vue purement médical, scientifique et statistique, comme le disait Gilles,
oui,
alors qu'il y a aussi le point de vue démocratique à prendre en compte, parce que quand on est face à des arbitrages différents, in fine, il n'y a que la démocratie, le respect des citoyens et de cette articulation complexe entre l'individuel et le collectif qui permet de résoudre à peu près les problèmes.
Et comment ça se passe ailleurs, chez nos voisins justement? Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Nous devons d'abord vérifier si avec les petits pas que nous allons faire, ouverture d'une partie des commerces, des classes du bac et du brevet, si avec ces petits pas donc, nous allons au-delà de nos limites ou pas. On pourra dresser un premier bilan au bout de 2 à 3 semaines et décider ensuite de ce qui sera encore possible.
On est très loin du lyrisme du président de la République. C'était la chancelière allemande Angela Merkel qui annonçait un assouplissement des mesures de confinement en Allemagne. Réouverture des petits commerces le 20 avril et donc des écoles le 4 mai, même si les grands rassemblements resteront interdits jusqu'à la fin du mois d'août. Comment comprendre ce que beaucoup présentent comme un modèle allemand, Gilles, puisque vous le regardez de près et que vous le suivez de près? Est-ce qu'ils font vraiment mieux que ce que nous faisons nous, et en ce cas, pourquoi ne pas faire comme eux, tout simplement?
D'abord, on voit la différence, alors évidemment avec deux pays qui n'ont pas les mêmes institutions, pas la même histoire, pas le même imaginaire, mais dans la gestion politique de ce dossier.
Et Angela Merkel a moins de pouvoir en vérité qu'Emmanuel Macron.
On n'a pas utilisé les mêmes mots. Emmanuel Macron a dit « nous sommes en guerre », le président Steinmeier a dit « c'est un test d'humanité ». Ouais. Il n'y a pas le même type de présence du politique. Emmanuel Macron est intervenu 4 fois de manière solennelle sans répondre à des questions. Angela Merkel est intervenue 4 fois en 14 ans. Et là, elle l'a fait après une conférence de presse et avec 4 heures de discussion derrière elle avec les présidents des Länder. Et donc, on n'a pas fait non plus avec le même style, hein, tout en mots pour Emmanuel Macron, tout en chiffres, on vient de le voir avec Angela Merkel. Bon, mais surtout, on ne le fait pas avec les mêmes résultats, et ça, c'est un mystère qu'il faut essayer d'éclaircir. La performance allemande est une réalité. Quand on regarde, non pas le nombre de cas, parce que c'est difficile de le savoir, mais le nombre de morts. On a, au jour d'aujourd'hui, aux alentours de 4000 morts en Allemagne, aux alentours de 18 000
en France, 21 000 en Italie. Alors,
même si la comptabilisation peut être un peu différente, il peut y avoir des approximations, même s'il y a un décalage d'une semaine, il n'y a aucun doute, la performance allemande est une réalité. Si à ce stade, avec ce que l'on sait aujourd'hui, on essaye de l'expliquer, je crois qu'il y a 2 ou 3 facteurs. Le premier, c'est qu'il y a eu
rapidement,
une anticipation. Avant la crise, l'Allemagne s'est préparée au vieillissement programmé de sa population. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de lits de réanimation. Et face à la crise, elle a réagi plus rapidement et notamment commandé en masse des tests en s'appuyant, et c'est évidemment une différence de capacité, sur une industrie qui était plus puissante, notamment sur les composants de ces tests. Mais à cela, et peut-être qu'on l'évoquera avec Roselyne Bachelot, s'ajoute un système de santé qui est plus décentralisé, qui est géré par les lenders et pas par l'État, même s'il y a une déconcentration en France, une culture de la confiance, et notamment dans la science et dans les autorités publiques, qui fait que les Allemands ont été plus réactifs et plus disciplinés, et enfin, une grosse pincée de chance. L'Allemagne n'a pas la même structure familiale. Aujourd'hui, vous avez 19% des Français qui sont confinés seuls, vous avez 36% des Allemands, et donc ça fait moins circuler le virus. Et puis le virus est arrivé plus tardivement, donc l'Allemagne a pu se servir de l'expérience des autres. Il a été moins concentré géographiquement, il a davantage concerné les jeunes, mais tout ça fait que beaucoup de choses un peu mieux faites en Allemagne, mises bout à bout, font beaucoup mieux à l'arrivée.
Natacha, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console.
Le fait est que la question là, d'en tirer les conséquences, de comprendre ce qui se passe et d'en tirer les conséquences. Parce qu'il y a en effet, Gilles a tout à fait raison, des éléments qui sont des éléments de chance ou des éléments de structure de population, puisque le fait qu'il y ait un vieillissement terrible de la population ne touche pas que l'Allemagne, mais aussi le Japon, mais aussi la Corée du Sud, c'est-à-dire ce sont les pays qui, jusqu'à présent, et même s'il faut rester prudent, s'en sortent le mieux. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, dans un sens, nous ne pouvons pas agir dessus et nous pouvons même nous réjouir d'avoir une population moins vieillissante. En revanche, là où nous devons en tirer les conclusions, c'est à la fois sur la dimension industrielle. En effet, ce qui aide l'Allemagne, c'est qu'elle a préservé son industrie et en particulier ses industries les plus essentielles. Nous avons embrassé en France le capitalisme à l'anglo-saxonne financiarisé. Nous en sommes devenus d'ailleurs des champions par notre école mathématique. L'Allemagne a préservé un capitalisme familial et industriel. C'est quelque chose d'absolument essentiel quand il s'agit de réagir et en effet de produire des tests avec des réactifs. Et puis, deuxième point, la question de l'inflation administrative française. La santé, les hôpitaux en Allemagne comportent 24%, enfin voient passer 24% de leur budget dans l'administration. En France, c'est 35%. Il y a là quelque chose qu'il faut absolument penser et il va falloir revoir cette organisation. Il y a de fait une déperdition de moyens dans l'organisation française.
Une question avant de retrouver Roselyne Bachelot. Est-ce que vous comprenez les différentes stratégies que suivent des pays qui sont pourtant voisins avec des structures qui ne sont pas si différentes malgré tout, une culture commune qui est une culture européenne? Pourquoi est-ce que chacun choisit son chemin? Natacha.
Mais Ali, la différence, elle est créée par la nécessité. Et c'est bien tout ce qui a été reproché à Emmanuel Macron et Édouard Philippe, c'est de n'avoir pas admis que leur choix était dicté non pas par la science, mais par la carence, le manque d'armes industrielles. Le discours sur les tests, encore lundi dernier, Emmanuel Macron dit « ça n'aurait pas de sens de tester tout le monde ». Mais c'est pourtant ce que fait l'Allemagne, et l'Allemagne le fait parce que l'Allemagne le peut. Chez nous, et on va en parler avec Roselyne Bachelot, les ARS ont très peu réagi, donc n'ont pas permis à nos laboratoires de commander les réactifs suffisamment en avance, etc. Donc nous nous retrouvons avec un manque de tests. Or, certains spécialistes ont expliqué que lutter contre le coronavirus sans tester l'ensemble de la population, c'est se promener dans une pièce noire avec une lampe de poche.
Et pourtant, d'autres disent que ça n'est pas absolument indispensable, à commencer par le président de la République. Comment comprendre, Gilles, ces stratégies si différentes? Et est-ce qu'on aurait mieux fait de s'inspirer de ce que font les autres, nos voisins ou plus loin?
Écoutez, je ne suis pas convaincu par les prémices de votre question, c'est-à-dire qu'il y ait des stratégies si différentes. En réalité, il y a deux grandes stratégies pour lutter. Soit il y a la stratégie, on l'a évoqué au début de cette émission, de l'immunité collective, et donc on laisse le virus circuler jusqu'à ce qu'une partie suffisante de la population soit immunisée. D'ailleurs, les données scientifiques les plus récentes mettent en doute la réalité de cette et la durée de cette immunité. Et la deuxième stratégie, c'est de ralentir la progression du virus. Après, il y a des différences sur la tactique. Il y a une manière très primaire de le faire, qui est le confinement, plus ou moins obligatoire. Et puis, il y a une manière un peu plus sophistiquée, quand on en a la possibilité, qui est les tests, les masques. Et donc, chacun Donc, en gros, tous les pays européens aujourd'hui sont sur la deuxième stratégie. On ralentit la progression du virus. Et après, en fonction des armes dont on dispose, eh ben, on est sur la tactique la plus primaire ou la plus sophistiquée. Et puis, parfois, on passe, c'est ce que nous allons faire, de la tactique la plus primaire à la tactique la plus sophistiquée au fur et à mesure qu'on est capable de le faire.
Et justement, on va en parler avec notre invité. Il est 12h34 sur France Inter. À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Roselyne Bachelot.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Comment gouverner, comment décider, comment prévoir quand on est au pouvoir et qu'on doit faire face à une crise comme celle que nous traversons? Le président de la République est-il seul à décider dans notre monarchie républicaine? Le politique doit-il laisser malgré tout le dernier mot aux experts, aux scientifiques? Comment arbitrer entre les urgences, les différentes urgences sanitaires, économiques, sociales? Notre invitée ce samedi, elle était ministre de la Santé au moment de la crise du H1N1. On l'a critiquée pour en avoir trop fait, d'avoir trop stocké de masques et d'avoir trop commandé de vaccins. Aujourd'hui, elle est érigée en modèle par certains. Ce qu'elle a vécu, en tout cas, est un vrai cas d'école. Bonjour, Roselyne Bachelot.
Bonjour, Ali Badou. Je regrette que des insuffisants techniques
vous êtes
là. Empêché de réagir sur le fameux exemple allemand. Avec
justement, on va en parler, Roselyne Bachelot. L'essentiel, c'est que vous soyez en ligne et avec nous à l'antenne de France Inter. Avant de parler de l'Allemagne, un mot quand même de la France et de cette crise que nous vivons, Roselyne Bachelot. C'est une crise qui est inédite, mais pourtant on entend quand même très régulièrement le reproche adressé au gouvernement, au président de la République, on ne s'est pas assez préparé. Et le président de la République l'a d'une certaine manière admis, pas complètement, mais un peu lundi soir. Est-ce que ce sont des reproches faciles ou est-ce que ces reproches sont fondés alors qu'on est encore en pleine pandémie ?
Je dirais les deux, mon général, et les reproches qu'on peut faire doivent être mesurés à l'aune d'une baisse de la garde pandémique qui ne date pas d'Emmanuel Macron. Nous avons collectivement pensé que les pandémies à venir ne nous concerneraient pas, et nous avions quelques raisons d'y croire, comme si les pandémies, et c'était la réalité jusqu'alors, venait se fracasser aux frontières du monde occidental.
Oui.
Nous considérions ces pandémies comme des caractéristiques de pays pauvres avec un système sanitaire parfois frustre, des organisations politiques qui ne permettaient pas une prise en compte convenable de ces catastrophes. Et puis nous voyons évidemment que nous ne sommes pas protégés. D'une certaine façon, j'ai eu une chance, je mets tous les guillemets du monde sur le mot chance.
Oui, bien sûr. C'est une chance collective pour les Français.
Voilà, dans la crise pandémique que j'ai eu à gérer, c'est que les scientifiques qui m'entouraient, et on va revenir dans un moment à la gouvernance, me disaient qu'ils ne savaient pas.
Comme aujourd'hui.
Et alors qu'aujourd'hui, on a plutôt le sentiment qu'il y a des écoles avec parfois même de véritables sectes qui assènent leur vérité. Et comme les scientifiques me disaient qu'ils ne pouvaient pas prévoir si le virus que nous avions à affronter était ou non d'une extrême dangerosité ou qu'il allait s'éteindre, ce qui est arrivé par la suite, il n'y avait qu'une seule politique à mettre en œuvre, c'est celle de la prévention maximum.
Mais on entend...
Quelquefois, le fait de la modestie et du doute est souvent le meilleur conseiller pour un politique.
Mais nous voyons tous collectivement une épidémie qui est très évolutive, qu'on apprend à maîtriser, peut-être pas, mais en tout cas qu'on apprend à mieux connaître au fil des jours. Comment est-ce que le pouvoir politique peut prendre des décisions quand les scientifiques eux-mêmes n'ont pas d'avis définitif et de doctrine incontestable?
Il n'y a qu'une seule théorie à ce moment-là, c'est la technique de la précaution, enfin c'est le concept de précaution et de prévention maximum, parce que il y a finalement trois positions possibles. Il y a celle de se dire que inévitablement, l'épidémie s'éteindra à un moment. On connaît très bien la cinétique des pandémies, mais on accepte ce qui est inacceptable, un coût humain absolument épouvantable. C'est la théorie qu'ont développée au départ.
Pour
y renoncer, Boris Johnson et Donald Trump, et qui en France auraient coûté entre 150 000 et 400 000 morts. C'est évidemment totalement insupportable. Et puis, il y a la technique, je dirais, qui émet des hypothèses, des scénarios. Et j'ai appelé ça la technique de la ligne Maginot, c'est-à-dire qu'on imagine que l'ennemi attaquera à un endroit et qu'on peut se permettre de ne pas protéger les autres. Et puis, évidemment, les virus...
L'ennemi ne passe jamais par là, oui.
Ils attaquent dans les trous qu'on leur a laissés à disposition. Donc, face à une crise pandémique, il faut mettre en place tous les outils possibles. Et je dois dire que j'ai eu une opportunité extraordinaire, c'est que dès le départ, j'ai eu un président de la République, Nicolas Sarkozy.
C'était Nicolas Sarkozy, Premier ministre François Fillon.
Voilà, et qui m'ont dit, à moi, ministre de la Santé, il faut mener la politique de la protection,
de la prévention maximale.
Et pour toi, l'argent ne doit pas être un facteur de choix politique. C'est assez extraordinaire comme opportunité quand on a à gérer ce genre de catastrophe et qu'on est ministre de la Santé.
Alors justement, Natacha Polony.
Oui, il me semble que vous soulignez la question des choix politiques et des arbitrages qui sont extrêmement complexes entre le risque et la gestion. Or, il me semble que ce qui vous a été dit par Nicolas Sarkozy et François Fillon pendant le moment où il y avait un risque majeur était évidemment tout à fait juste et on ne peut que s'en réjouir. Le problème vient dans les moments où il n'y a pas, où le risque n'est pas là. Parce que c'est là que ça se décide. Quand on regarde l'histoire de la gestion du stock de masques, on voit que après le moment où vous-même aviez mis en place des stocks, puis ensuite Xavier Bertrand, eh bien, le train-train est revenu. Le risque s'éloigne. Et là, on a des arbitrages qui sont des arbitrages économiques qui consistent à se dire qu'après tout, il vaut mieux du flux que du stock, que à l'échelle mondiale, on produit énormément de masques, qu'il n'est donc pas nécessaire d'avoir des stocks chez nous, que on va déléguer ça aux patrons, aux entreprises qui verront si et aux chefs des différentes et aux dirigeants des différents hôpitaux qui géreront leurs stocks de telle façon que l'État se désengage. C'est-à-dire que le moment risqué, finalement, c'est celui où tout va bien et où il faudrait préparer. Et ce qui a péché, c'est sans doute qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de vision de ce qu'était le rôle de l'État. Qu'en pensez-vous ?
Rosine Bachelot.
Oui, il y a évidemment un point de rupture tout à fait significatif, c'est la suppression de l'EPRUS, l'établissement public de préparation à l'urgence sanitaire, à la réserve et à l'urgence sanitaire. C'était un outil qui avait été mis en place en 2007, quand Xavier Bertrand était ministre de la Santé, outil tout à fait remarquable, qui s'inscrivait dans le temps long et qui s'inscrivait dans le moment où il n'y avait pas de crise épidémique, où il n'y avait pas de pandémie. Et cet établissement public était doté de moyens très importants pour se préparer à une crise pandémique. C'est d'ailleurs un établissement qui était utile non seulement sur le plan national, mais qui nous a permis de nous porter au secours d'un certain nombre de pays en difficulté. Je pense en particulier à Haïti, au moment de la catastrophe que nous connaissons, où les Prusses a été tout à fait en première ligne. Et puis, en voulant mutualiser un certain nombre de moyens, en disant un établissement public qui sert servira peut-être jamais, pourquoi le continuer? On a créé Santé publique France en mutualisant avec l'Institut national de veille sanitaire et avec l'Institut national de promotion et d'éducation à la santé. On voit bien la difficulté, enfin, le virus de dysfonctionnement qui surgit alors, puisqu'on a des temporalités tout à fait différentes dans ces trois éléments. Certes, les deux INVS et INPES gérant des politiques de quotidienneté et un établissement public qui se prépare à une situation d'urgence ou de catastrophe qui ne viendra peut-être jamais. Et c'est là qu'on voit bien qu'il faut que les politiques de préparation pandémique gardent des spécificités car elles ont une temporalité tout à fait différente.
Gilles Finkelstein.
Oui, en revenant une nouvelle fois sur la crise que vous avez eue à gérer, d'ailleurs où on voit que la récurrence des critiques qui sont adressées au pouvoir public, y compris le fait de faire leur choix, non pas en raison d'enjeux de santé publique, mais en raison de leur lien avec les laboratoires pharmaceutiques, qui étaient exactement les mêmes accusations dont vous avez fait preuve, étaient l'objet il y a 10 ans. Ma question est deux questions. Une question d'ordre général, c'est comment on fait pour privilégier dans les décisions publiques la prévention, l'anticipation, qui n'est pas une force française. Vous avez réussi à le faire sur la question des vaccins sur le SRAS. Vous avez eu plus de difficultés sur la dépendance, puisque quand vous avez été nommé ministre de solidarité pour faire ça,
ça avait moins. C'est même pour moi un échec.
Bon, on est d'accord. Donc, comment on fait dans la décision publique pour privilégier la prévention et l'anticipation? Et une question spécifique sur les masques, non pas sur ce qui s'est passé, mais sur le choix entre le stock et les flux. Qu'est-ce qui est pour vous le bon choix? Et c'est vrai pour les masques, mais cette question, elle se pose pour beaucoup d'autres choses. Est-ce que c'est sur un certain nombre d'enjeux stratégiques qu'il y ait des stocks, avec évidemment le coût que ça a, parce que ils ont une date de péremption? Ou est-ce que on soit dans une culture de flux, mais en gardant une capacité de production en France ou en Europe? C'est quoi le bon choix de politique publique?
Roselyne Bachelot.
Les deux, mon général. On sait bien qu'il faut une politique de stock parce que au moment où survient la crise pandémique, qui est évidemment une crise générale, une crise mondiale, et on l'a vu dans cette crise pandémique, on est en position d'extrême fragilité parce que évidemment le foyer de l'épidémie, et c'est ce qui nous est arrivé malheureusement dans cette crise, ce qui nous arrive dans cette crise pandémique, elle part justement l'épidémie de ce qui est l'atelier du monde, ce qui est devenu l'atelier du monde, en l'occurrence la Chine, et qu'en plus on est dans un système de concurrence sur une denrée qui est forcément rare à ce moment-là, parce que ce n'est pas évidemment technologiquement quelque chose de compliqué que de fabriquer des masques, mais logistiquement il faut s'y préparer. On a vu les Américains venir quasiment nous voler sur des tarmacs d'aéroports chinois
les masques que nous
avions commandés. Vraiment, j'en appelle là aussi à la vigilance sur ce qui va arriver au moment de la sortie des premiers vaccins. Ça va être une foire d'empoigne absolument incroyable.
Et sans doute la loi du plus fort.
Il y a évidemment la fabrication, de trouver ce vaccin, mais ensuite il y a la logistique de la fabrication. Vous savez, il y avait un dessin de Plantu dans Le Monde qui m'avait représenté juché sur un tas de boîtes de cartons de vaccins. En fait, ça n'est jamais arrivé.
Vous les avez commandés.
On a toujours eu des difficultés d'approvisionnement considérables et je n'ai pas de conseils à donner au gouvernement français, qui suis-je d'ailleurs pour les donner, mais il me paraîtrait utile de se prépositionner dès maintenant vis-à-vis des fabricants de vaccins, parce que ça va être une guerre mondiale que d'avoir ces vaccins. Donc il faut déjà, à mon avis, alors que les vaccins
n'existent même pas,
n'existe même pas. Il faut d'ores et déjà se positionner auprès d'un certain nombre d'industriels sur des précommandes, sur des dispositifs de ce type. Mais j'ai dépassé votre question là.
En l'occurrence, j'allais vous ramener à une question très simple, une question qui nous concerne tous, en tout cas une question de citoyen qui n'est ni médecin, qui n'a aucune compétence scientifique pour juger de l'épidémie et de la manière de la combattre. Mais est-ce que nous, citoyens, nous devons accepter qu'un gouvernement puisse se contredire ? Qu'on nous dise, par exemple, que la première chose à faire, c'est de fermer les écoles pour lutter contre la propagation de l'épidémie, et que, d'un autre côté, le 11 mai, date du déconfinement, ou en tout cas du début du déconfinement, on présente l'une des premières mesures, comme la réouverture des écoles. C'est pas forcément contradictoire, mais en tout cas, c'est difficile à comprendre.
Il y a une cinétique, de la même façon qu'une épidémie a une cinétique, la décision politique a une cinétique. On sait très bien que les mesures de confinement ne sont que des mesures temporaires. Et que de toute façon, tant que nous n'avons pas de vaccin, nous serons confrontés aux mêmes difficultés sur les procédures de déconfinement. L'idée que d'attendre septembre serait une bonne manière de régler les choses, moi je n'y crois pas, nous serons confrontés aux mêmes difficultés. Moi ce que je souhaite en tant que citoyenne, c'est oui. Ces quatre semaines avant le déconfinement soient mises à profit pour imaginer des scénarios, des techniques et peut-être conclure le 10 mai au soir que il y a des choses qui ne sont pas possibles. On s'est fixé des objectifs, on discute avec un certain nombre d'organisations citoyennes, des syndicats, des associations, de parents d'élèves pour ce qui concerne l'école, et de se dire voilà, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela, comment faut-il procéder. Moi je souhaite que ces quatre semaines, une fois qu'un certain nombre de têtes de chapitre vont être déterminées par le gouvernement, parce que c'est son rôle au pouvoir politique, on puisse ouvrir une concertation, mais c'est plus qu'une concertation, c'est une mise en mobilisation de l'ensemble des citoyens. Cette affaire-là, elle ne peut pas être faite uniquement par des décisions venant d'en haut. Attention, il faut que un certain nombre de décisions viennent d'en haut. Il ne faut pas jouer le référendum d'initiative citoyenne sur un certain nombre de dossiers. Mais vraiment, là, on va voir si la capacité de notre pays à se mobiliser de façon efficace et un autre gouvernement de déléguer un certain nombre de choses, tout ça peut se mettre en route.
Natacha Polony.
Oui. En effet, je trouve que, enfin, je rejoins totalement votre vision de ce rôle de l'ensemble de ce qu'on appelle les forces vives d'une nation. Tout ça va être absolument essentiel. Il faut les mettre en route. Est-ce que c'est possible dans un pays hyper administré et administré avec une dérive de l'administration vers un culte gestionnaire? Je m'explique. On s'aperçoit quand on voit la façon dont ça s'est passé, notamment sur les tests de virologique et les tests sérologiques, on s'aperçoit que les ARS ont joué un rôle qui était un rôle de frein, en fait.
Agence régionale de santé.
Partout des laboratoires se proposaient pour chercher, pour commencer à voir comment ils pourraient produire. Et à chaque fois, on leur disait, non, surtout pas, parce que pour l'instant, ce n'est pas possible. Et donc, ils ne se sont pas, exactement ce que vous disiez, ils ne se sont pas positionnés sur les réactifs auprès des fournisseurs. Et ils expliquent que du coup, ils sont pas dans les listes des fournisseurs, ils ont un mois et demi de retard. Cette culture de l'hyper-administration ne risque-t-elle pas justement d'empêcher une stratégie comme celle que vous décrivez, et comment il faut revoir cette structure de la santé, ces ARS, pour qu'elles redeviennent ce qu'elles devraient être, c'est-à-dire tout simplement un moteur, une façon déconcentrée de penser la santé.
Roselyne Bachelot.
Alors je suis, si l'on peut dire, je suis la maman des ARS, des agences régionales de santé. J'avais voulu, en les créant en 2009, qu'elles soient une administration souple, déconcentrée, avec un fort pouvoir d'autonomie, Et je dois dire que je regrette que tout au long des un peu plus de 10 années, enfin des 10 années exactement, puisque elles ont été en préfiguration en 2009 et créées formellement en mai 2010, il y a eu une sorte de dérive, comment dirais-je, technico-administrative qui se soit installée dans les ARS. Il faut dire aussi que les ARS ont subi un coup de bambou absolument extraordinaire avec la désastreuse réforme régionale qui est arrivée, qui a totalement inutile, la création des 13 grandes régions métropolitaines au lieu des 22 régions initiales. Je dois dire que sur une administration adolescente, cette affaire a été une véritable catastrophe et n'a apporté sur aucun des éléments de la gestion de la gouvernance de ce pays n'a apporté un avantage compétitif.
Et on en paye le prix aujourd'hui, Roselyne Bachelot ?
Oui, je crois qu'on en paye le prix. Alors, il faut être logique, parce qu'il faut toujours dans ceci essayer de ne pas avoir une vision purement géométrique. Dans la gestion sanitaire de la pandémie, les ARS ont eu un rôle tout à fait admirable, et en particulier sur la mutualisation du système de santé. Les acteurs de terrain reconnaissent que dans la gestion sanitaire de la crise, parce que la crise, vous l'avez dit, n'est pas que sanitaire, les ARS ont eu un rôle tout à fait majeur et tout à fait allant.
Il nous reste une poignée de minutes. Gilles Finkelstein.
Oui, je rebondis sur les deux points que vous avez évoqués. La question de moyen terme sur l'organisation de notre système de santé. Est-ce que pour vous, la voie que l'on doit suivre, c'est une réforme des ARS, c'est-à-dire une meilleure déconcentration d'un système qui reste dominé par l'État, ou est-ce que c'est d'aller vers une décentralisation plus forte, un peu comme je l'évoquais pour les Allemands, c'est-à-dire que ce soit les régions, par exemple, qui soient responsables de la santé ? Première question. Deuxième question de court terme. Vous dites à raison que nous allons déconfiner à un moment où il n'y aura ni vaccin ni traitement, et donc qu'il y aura nécessairement une part de risque. On ne va pas choisir de rester enfermé à vie simplement pour être certain d'être en bonne santé. Donc, à quelles conditions ce déconfinement, pour vous, peut-il avoir lieu ?
Commençons d'abord par la question qui nous préoccupe tous, Roselyne Bachelot, celle des conditions du déconfinement.
De court terme et de long terme. Alors, faut-il qu'il y ait une réforme de la gouvernance sanitaire de notre pays ? Pourquoi pas ? Mais évidemment, le système extrêmement, non pas déconcentré, mais décentralisé allemand, accepte par définition des disparités régionales. Et je pose la question pas seulement aux gouvernants, mais aux individus. Est-on prêt, nos opérateurs de soins, sont-ils prêts à avoir pour interlocuteurs les présidents de région, alors que la conception française de l'égalité a installé la gestion du système de santé quasiment comme une fonction régalienne.
Nationale en tout cas.
Allemand, il est constitué majoritairement d'établissements privés avec des gens qui ne sont pas des fonctionnaires. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à l'hôpital public ? L'hôpital allemand, il a une conception, les hôpitaux allemands, une conception industrielle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient des lits de réanimation, un nombre de lits de réanimation bien supérieur à nous. C'est-à-dire qu'ils estiment que le rôle de l'hôpital est d'assurer des choses, d'abord de la haute technologie, alors que le système français est embolisé par les soins courants. Donc on voit que réorganisation, je veux bien, mais on vient tamponner des valeurs qui sont des valeurs fondatrices dans notre pays. Et tout ça, la réforme de la gouvernance ne peut pas être un toilettage bienvenue, peut-être, de certains fonctionnements des ARS. C'est quelque chose de beaucoup plus global. Puis vous m'avez posé une deuxième question, mais je...
C'était les conditions du déconfinement, Roselyne Bachelot.
Les conditions du déconfinement, c'est d'abord de rappeler qu'il y a des mesures de confinement qui devront être respectées par beaucoup des acteurs et des opérateurs à la fois du système de santé et du système économique et social, et que ce n'est pas une sorte de youpi tralala qui va arriver le 11 mai. On est rentré à partir du 11 mai dans quelque chose qui va être beaucoup plus difficile. Il s'agira plus d'obéir à des ordres, mais d'avoir une démarche citoyenne où chacun sera en responsabilité. Bon, ça va être quelque chose de très compliqué, et que le déconfinement ne pourra être une procédure acceptable et surtout frappée du succès que si tout le monde est là et qu'on change vraiment de paradigme dans la société française.
Et ça, c'est possible, Roselyne Bachelot, c'est une question à la politique que vous êtes et celle qui a l'expérience, en tout cas, de l'opinion et des mouvements de l'opinion française. C'est pensable?
Je pense qu'on peut faire confiance aux citoyens, mais il faut aussi que les citoyens fassent confiance à leurs gouvernants aussi. Je suis frappé par des éléments perturbateurs qui ne sont pas des éléments d'efficience. Que le gouvernement fasse confiance. Oui. Que les citoyens fassent confiance au gouvernement pour une durée limitée. Je leur demande pas de faire confiance sur la réforme des retraites, sur tel ou tel dossier, mais au moins, pendant la crise, dans cette gestion de la pandémie, chacun se dise que chacun essaie de faire au mieux.
Merci. Le message est passé. Merci Roselyne Bachelot d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé au grand face-à-face. Bon week-end à vous, Natacha et Gilles. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Paola Puerari qui a préparé cette émission. À la réalisation, c'était Lauriane Toulmont. À la technique, Ludovic Asselot. À suivre sur Inter, le journal.